Ramadan & Co avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Beurre FM, sur les traces du prophète Abdelali Mamoun.
Vous le savez, pendant tous les jours de ce mois de Ramadan, nous marchons sur les traces du prophète. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Et nous suivons l'imam Abdelali qui nous transporte tous les jours pour nous raconter cette histoire. Bonjour imam Abdelali.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toi Philippe et bonjour à toutes nos auditrices et auditeurs qui nous suivent tous les jours pendant ce mois béni du Ramadan et vivent avec nous ces moments de spiritualité, cette épopée de la vie du prophète dans laquelle nous découvrons comment cette religion nous est parvenue, le berceau de l'islam. Nous sommes maintenant non plus à la Mecque mais à Médine.
Ce mois sacré. Ce mois sacré, il m'a
dit. Oui, effectivement. Oui, oui, oui. Et surtout que cette première révélation que nous avons évoquée hier ou avant-hier dans la grotte de Hira a eu lieu le 27e jour du mois du Ramadan. Donc c'est le mois du Ramadan dans lequel a été révélée pour la première fois la parole de Dieu dans la grotte de Hira. Ça, il faut aussi le préciser.
Quelle sera la fréquence de la révélation par la suite ?
C'est périodique, effectivement. Le prophète reçoit une révélation périodique, mais avant de parler de ça, il va d'abord commencer par appeler, prêcher la bonne parole et inviter son entourage à devenir des monothéistes purs et à croire en sa prophétie, en son message. Donc il va demander à son entourage d'adhérer et de prêter allégeance, c'est-à-dire à prononcer l'attestation de foi et donc devenir des muslimines, des gens qui sont soumis à un Dieu unique et réfutent toutes les formes d'idoles que les idolâtres et les polythéistes de la Mecque vénéraient à l'époque. Donc c'est d'abord Khadija, comme on l'a dit hier, qui se convertit la première à l'islam. Ensuite, il y a celui qui était son colocataire, son cousin, et qui l'avait pris sous son aile, son cousin Ali ibn Abi Talib, qui n'a que 10 ans à l'époque. Le prophète a 40 ans. Il y a 30 années qui séparent Ali du prophète. Et Ali ibn Abi Talib, qui vit avec Khadija, a chez lui son cousin Ali ibn Abi Talib. Pourquoi ? Parce que le prophète veut remercier son oncle Abu Talib, il est toujours vivant, il est toujours là, Abu Talib. Mais il veut le remercier de l'avoir, lui, à l'époque, pris en charge quand il était, lui, dans le besoin. Et il veut le soulager de ses enfants, parce qu'il en a beaucoup. Abu Talib, l'oncle du prophète, a beaucoup d'enfants. Donc il veut le soulager, il lui dit, tiens, je vais prendre sous mon aile Ali ibn Abi Talib, ton fils, mon cousin, donc, et je vais m'en occuper. Donc c'est Ali qui, en entendant le prophète évoquer cette réalité-là, qui va se convertir tout de suite après Khadija. Le prophète sort de chez lui, va rencontrer son meilleur ami, son compagnon de longue date, qui s'appelle Abdullah ibn Uthman. Alors vous allez me dire, c'est qui ce Abdullah ibn Uthman ? Eh bien, c'est tout simplement le vrai nom de Abu Bakr Siddiq. Il y en a, ils ne savent pas que Abu Bakr Siddiq, son vrai nom, c'est Abdullah ibn Uthman ou Abdullah ibn Abi Quhafa. Parce que son père Uthman s'appelle Abu Quhafa. Alors qu'est-ce que ça veut dire Abu un tel ? On appelle ça en arabe la kunya. Hein, quand on dit un tel s'appelle Abu Fulan, par exemple, moi je m'appelle Abu Ayman, du nom de mon grand-fils. Mon fils s'appelle Ayman le Grand, donc je m'appelle Abu Ayman. Parce que, on appelle ça en arabe la kunya. C'est une tradition purement arabe de se faire appeler par son plus grand enfant aîné, l'enfant aîné. Et donc, l'enfant aîné du prophète s'appelle Al-Qasim, donc le prophète lui aussi s'appelle Abu Al-Qasim. Hein, c'est le surnom du prophète, c'est la kunya du prophète. Et Abu Bakr est la kunya de Abdullah ibn Uthman, son vrai nom. Et il y en a d'autres, hein, Abu Ubaida, Abu Hafs, Abu Turab, c'est Ali ibn Abi Talib, on l'appelait Abu Turab, ou Abu Hassan, Uthman, Abu Aban, etc. Les compagnons du prophète avaient tous des kunyas, et même les Mekwa avaient par exemple, le pire ennemi du prophète qui s'appelait Abu Al-Hakam. Le prophète lui a changé de surnom, au lieu de l'appeler Abu al-Hakam, qui est le nom de son fils, eh ben il va l'appeler Abu Jahl, le père de l'ignorance, puisqu'il veut le dénigrer, comme il est le pire ennemi de l'islam, donc il lui donne un surnom péjoratif pour le discréditer, lui aussi, parce qu'il n'arrêtait pas lui aussi de le persécuter et de le discréditer. Donc Abu Jahl, il y a l'oncle du prophète, qui sera aussi un des ennemis du prophète, Abu Lahab. Abu Lahab sera un des ennemis de... Mais lui aussi, son surnom, c'est Abu Lahab. Donc voilà, les Arabes avaient pour habitude de se faire surnommer, de se faire appeler par, de manière honorifique par le nom de leur fils aîné. Donc, alors, Abu Fulayl. Ouais.
On revient sur les premiers convertis, donc Imam Abdelali.
Voilà, donc les tout premiers convertis, comme je le disais, c'est tout d'abord Abu Bakr, Khadija Abu Bakr. Nous avons donc Ali ibn Abi Talib, le premier enfant converti à l'islam. Alors pourquoi d'abord Abu Bakr se convertit ? Il se convertit parce que il a fréquenté le prophète pendant 40 ans. Et dans les 40 années où il a fréquenté, il n'a jamais entendu une seule fois Mohammed mentir. Donc il s'est dit, au bout de 40 ans, il ne va pas commencer à mentir maintenant. Mmh. Donc s'il dit qu'il est prophète, c'est qu'il est vraiment prophète. Donc il va tout de suite adhérer sans aucune raison, sans avoir besoin d'une preuve. Contrairement à tous les autres prophètes qui vont avoir besoin d'un miracle ou d'écouter le Coran et de trouver à travers le Coran le caractère, c'est-à-dire scientifique, le caractère éloquent ou défiant. Hein. Ils défient la littérature arabe et la rhétorique arabe et se convertissent en entendant et en écoutant la parole de Dieu, comme c'est le cas de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc, sauf Abu Bakr Sadiq, lui n'aura pas besoin de preuves pour se convertir, si ce n'est la preuve de sa fréquentation, que d'un homme qui n'a jamais menti toute sa vie et qui va donc se convertir rapidement à l'islam. D'autres vont se convertir et vont suivre rapidement. Alors il y a d'abord Zayd ibn Haritha, celui qu'il avait au début adopté, qu'il appelait Zayd ibn Muhammad, qui surnommait Zayd le fils de Muhammad, mais qui après sera aboli, hein, il ne pourra plus l'appeler son fils, mais son bien-aimé, il l'appellera Hibbi, et il aura même un petit-fils de Zayd qui s'appelle Usama ibn Zayd, qui va surnommer Al-Hibb ibn Al-Hibb, le bien-aimé, fils du bien-aimé. Donc voilà, c'est l'entourage proche. Ensuite, nous avons
Un deuxième cercle.
Deuxième cercle des hommes qui le connaissent et qui le fréquentent. Ce sont pour la plupart des jeunes d'une 10, 15, 20 ans plus jeunes que lui. Ils ont 25 ans, 20 ans, voilà, tous autour de 20 à 25 ans ou 27 ans. Alors c'est qui ? C'est Uthman ibn Affan, c'est Talha ibn Ubaidillah, c'est Az-Zubayr ibn Al-Awwam, c'est Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est Abdurrahman ibn Auf, c'est Khabbab ibn Al-Arat, non, lui c'est un esclave, Suhayb Al-Rumi, Suhayb le Romain, qui lui aussi est un esclave, Ammar ibn Yasir et Soumaya, donc Ammar, sa mère et son père, eux aussi sont convertis. Ce ne sont pas des esclaves, mais ce sont ce qu'on appelle des mawali. On en a parlé une fois. Les mawali, c'est la deuxième catégorie des citoyens, des sous-citoyens, qui sont sous la tutelle d'une tribu mécoise notable. Et donc, ceux-là, ce sont un petit peu des personnes assez fragiles. Uthman ibn Mad'un, Abu Salama ibn Abd al-Assad, Utba ibn Ghazwan, etc., etc. Au fur et à mesure que le temps passe, d'abord, vous avez aussi Saïd ibn Zayd, les 10 premiers convertis, qui seront les 10 que le prophète va annoncer le paradis de leur vivant. C'est ce qu'on appelle Al-Mubashirin Abil-Jannah.
On les appelle comment ces 10 premiers convertis ?
Al-Mubashirin Abil-Jannah. C'est ce qu'on appelle ceux à qui on a annoncé le paradis avant qu'ils meurent. C'est un hadith. C'est d'abord Abu Bakr, qui est le premier homme à rentrer au paradis derrière le prophète, et sans jugement. Donc il rentre au paradis sans jugement. Bien entendu, Omar al-Khattab, qui est le premier homme à être jugé, en brandissant ses actes de la main droite. Uthman, le troisième, Ali ibn Abi Talib, le quatrième, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Auf, Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubayr ibn Al-Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd, et puis le dixième, ça va me revenir. Ah oui, Abu Ubaida Amr ibn Al-Jarrah. Donc bien sûr, voilà. Ce sont donc 10 hommes qui sont les meilleurs hommes, les meilleurs compagnons du prophète. Ce sont ces 10 piliers qui vont l'entourer et qui vont le soutenir, qui seront le noyau dur de cette révélation, qui sont le deuxième cercle dur qui entoure le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc va commencer à partir de là une période qu'on appelle la période secrète. C'est la période discrète où le prophète propage l'islam discrètement, ce qu'on appelle da'wa sirriya. Secrètement, il ne crie pas sur les toits qu'il est le prophète. Il va voir les gens les uns derrière les autres. Celui qui est le plus réceptif, il commence petit à petit à les convertir les uns derrière les autres. Et notamment l'un d'entre eux qui s'appelle Zayd ibn Abil Arqam. Zayd ibn Abil Arqam. qui va être ou bien Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, excuse-moi, Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, c'est un homme qui vivait dans la partie sud de la Mecque, au sud du mont Safa. Tu vois, il y a le Safa, il y a le Marwa, et c'est derrière la montagne qu'on appelle la montagne de Abi Qubays. Pour ceux qui ont été à la Mecque, eh bien c'est ce qui correspond au palais du roi. Vous savez, il y a un endroit au sud de la Kaaba, près de la tour, là où il y a l'horloge, sur la côté gauche de l'horloge, il y a une montagne sur laquelle il y a un immense palais, qui est le palais du roi, le palais de Al-Saoud, de la famille de Saoud, où est-ce que, à l'époque, avant que soit construit le palais, cette montagne, on l'appelait la montagne de Abi Qubays. Donc, derrière cette montagne, il y avait la maison de Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. C'est là où le prophète se réunissait secrètement avec les compagnons et il leur transmettait au fur et à mesure qu'il recevait la parole de Dieu. Eh bien, il la transmettait à ses compagnons. Donc, petit à petit, les compagnons se convertissaient à l'islam. Sauf qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, c'est que Dieu décide d'interrompre la révélation. Pendant 50 jours, pas un mot. Silence radio, plus de l'ange Gabriel, plus rien du tout. Le prophète, il commence à douter, il dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne reçois plus rien? Pourquoi il n'y a plus de révélation? Certains historiens vont dire même qu'il a tellement désespéré qu'il a cru qu'il avait déçu Dieu et qu'il pensait qu'il n'était pas à la hauteur de sa mission et que Dieu l'avait délaissé. Et au bout de, il va même tenter de se suicider, il va dire, qu'est-ce que je fais moi sur terre? Puisque je ne suis pas à la hauteur de ma mission, je n'ai plus de raison d'être. Donc il a pensé, il est monté sur une montagne, il a commencé à vaciller. Il y en a même qui disent qu'il a été ensorcelé à ce moment-là et qu'il a failli se suicider. Mais Dieu va à ce moment-là le préserver, le protéger de cet acte-là. Et il va, bien entendu, lui révéler le verset en lui disant, mais non, je ne t'ai pas abandonné. Il lui dira, je jure par l'aube et par le matin et la nuit qui tombe. Hein, Dieu ne t'a pas abandonné. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa lal akhiratu khayrun laka min al-ula, et sache que ton au-delà est meilleur que ce bas monde. Donc il lui rappelle cela, il a dit que tu n'es pas là pour obtenir un succès dans ce bas monde. Tu es là pour réaliser une mission, c'est la transmission du message divin, pas pour imposer la religion et pas pour obtenir de tout cela des privilèges et des avantages dans ce bas monde. Dieu lui dira, tu n'es pas un gourou qui est là pour profiter de cet avantage que je t'accorde pour en faire un moyen de t'enrichir ou autre. Donc voilà, c'est une leçon que Dieu lui transmet par cet abandon qui durera 50 jours, d'après les historiens.
Et vous réécouterez cet épisode avec tous les épisodes, hein, l'intégralité des épisodes, si vous en avez raté certains sur beurrefm.net en podcast. Je vous rappelle que dans un instant, Imam Abdelali Mamoun répond à vos questions en direct au standard de beurrefm. Allô l'imam au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h. Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Ramadan & Co, voilà, 30 jours avec vous, c'est l'engagement qu'on a avec vous tous et le plaisir qu'on a à partager toutes ces soirées avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonsoir imam.
Bonsoir Philippe, salamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi d'être avec toi et avec toute l'équipe de Beurre FM et puis bien sûr toutes nos fidèles et nos fidèles au masculin, féminin, donc auditrices et auditeurs fidèles tous les soirs sur Beurre FM afin de profiter de ces soirées du Ramadan qu'on vit dans la foi, la spiritualité, la convivialité, la fraternité, aussi la générosité, pas mal. Il y en a parce qu'il y en a beaucoup qui sont généreux.
Bien, alors je vous rappelle que la première partie de cette émission, c'est Allô l'imam, et vous pouvez poser toutes vos questions.
C'est Ousmane Timira qui est généreux ce soir.
C'est vrai.
Ouais, mais il ne faut pas lui dire.
Oh, bon, c'est trop tard.
Ah, trop tard, il nous a entendu. Oh là, c'est mal, voilà. je suis mal barré. Elle nous a ramené des gâteaux. Je l'ai vu passer devant moi, j'ai dit, ah, j'allais lui sauter dessus avec ces gâteaux-là.
Mais il faut attendre que l'imam y fasse l'ADN.
Allahumma barik.
Bon, alors, toutes vos questions, vous pouvez poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions interdites, hein, 01 53 48 3000. Et c'est ça qui fait le succès de l'émission aussi. C'est vos questions. C'est grâce à vous qu'on est là depuis tellement d'années. Alors, nous avons Fatia qui est avec nous. C'est Fatia qui ouvre la session ce soir. Bienvenue. Non, alors c'est pas Fatia qui est. Non, c'est Katia, pardon. Katia.
Alors, on y va.
Katia, bonsoir, bienvenue et bon Ramadan.
Oui, bonsoir, bon ramadan.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Marhaba nouti.
Si vous pouvez parler plus fort.
Ou alors enlever,
ou vous rapprocher du collier.
Voilà, ou enlever le kit main libre et le haut-parleur, ouais.
Je n'ai pas le kit main libre ni haut-parleur, je l'ai fait juste à l'oreille.
Bon, alors on va essayer de vous entendre. Allez-y, Katia.
Alors, j'ai une question. J'étais avec une amie proche, hein, et du coup, elle reçoit un appel de l'étranger en lui disant que votre papa, il était très malade, et voilà, donc elle était stressée, prise, elle était dans tous ses états, donc je me suis permis de prendre son téléphone pour répondre, et du coup, un de ses proches qui me disait au téléphone que son papa, était finalement mort, mais vous ne lui dites pas, essayez de l'aider pour prendre le billet d'avion pour rentrer, pour le voir. Et donc, moi aussi, ça m'a stressée. Donc, et du coup, quand j'ai coupé, elle m'avait dit, elle avait un doute, elle m'a dit, je pense qu'il est mort. Et du coup, je lui ai dit, non, il est dans un état critique, il faudrait aller le voir. Elle m'a dit, je lui ai dit, voilà, il n'est pas mort. Donc, j'ai menti, dans le but où elle pourra voyager tranquillement. Et du coup, est-ce que je dois jeûner 3 jours ou pas?
Mais il fallait pas dire Wallah d'abord. Il fallait tout simplement lui dire, écoute, je peux pas. Moi, je sais pas exactement. Voilà, je peux pas répondre. Tu, quand tu iras là-bas, tu en sauras mieux. Tu en sauras plus. C'est tout. On vous a demandé de ne pas le répéter, c'est ça?
Oui, elle était stressée. Du coup, elle m'a dit.
Ouais. Pour éviter qu'elle s'effondre devant vous là-bas, etc. Non, il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Inch'Allah, Mekoun Bess. Mekoun. Vous ferez une petite sadaqa de 50 euros et c'est bon. 10 repas.
Voilà.
Quelqu'un qui jure et qui parjure, ce qu'on appelle un parjure, ne respecte pas le yamin kadiba, c'est ce qu'on a un sermon, ou moins un parjure, qu'on appelle ça un parjure, eh bien, il est expié par une sadaqa à 10 pauvres, comme le dit le verset du Coran. C'est l'équivalent de 50 euros à des pauvres.
D'accord. Ok, bon, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Allez, bon,
je vous en prie à vous aussi. Salam alaikum.
Merci Katia. Alors, vous posez vos questions à l'imam, mais essayez de poser une question à la fois, parce que comme il y a beaucoup d'auditeurs, on est là pendant 30 jours, donc vous pourrez revenir.
Il y a un élément à donner comme leçon ici, c'est que la foi nous ordonne la rigueur dans les mots que nous prononçons et dans les serments que nous prononçons. Mmh. Qui fait que lorsqu'on s'engage à quelque chose et qu'on ne le fait pas, on doit payer une compensation. Et ça, c'est une bonne leçon en termes d'honnêteté que nos hommes politiques pourraient d'ailleurs apprendre. Mais même pour devenir un véritable être humain, un homme, une femme, ça commence par la parole donnée. Quelqu'un qui ne tient pas sa parole ne peut pas espérer avoir une foi accomplie.
Alors, nous avons Assia qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Assia.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir, salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que j'ai le droit de poser 2 questions, si c'est possible?
Bah déjà, il y en a une, là.
On va commencer par la première, on y va.
D'accord. Alors, la première, en fait, là, j'ai mon mari qui a commencé pour la première fois à faire la prière.
Mashallah.
Et là, il se moque. Et c'est un peu grâce à vous, Imam Abdelali Mamoun.
Ah, bah, c'est tant mieux. Assallah Azza wa Jalla, yataqabbala minna.
Inch'Allah, ya Rabbi. Du coup, alors, en fait, là, comme il ne connaît pas, en fait, l'arabe 0%, donc je suis en train de lui apprendre. Donc, il fait la prière avec moi. Sauf que, en fait, quand on fait la prière, en fait, moi, je lève la voix pour qu'il puisse écouter.
Mm-hmm. C'est un Français converti?
Oui. Non, mais en fait, c'est un musulman, mais voilà.
Ouais, mais c'est-à-dire que c'est une personne qui ne maîtrise pas l'arabe du tout.
Non, pas du tout. Alors, d'accord. Là, pas du tout.
Ok, donc, c'est très bien. Ce que vous faites, vous faites toutes les prières à côté de lui à voix haute et il va apprendre petit à petit. Mais vous les faites toutes, même ce que vous dites dans la prosternation, dans l'inclinaison, tout à voix haute. Au moins de manière à ce qu'il entende. Pas trop, faut pas crier, d'accord. Faut pas hurler, mais de manière à ce qu'il puisse entendre ce que vous dites. D'accord?
D'accord. En fait,
jusqu'à qu'il apprend. Dès qu'il apprend, vous arrêtez de faire ça.
Oui, justement, oui, parce qu'en fait, on dit toujours que la femme, il faut pas qu'elle lève la voix pendant la prière.
Non, c'est pas vrai, ça c'est totalement faux. La femme, une prière à voix haute, par exemple, une prière de la nuit, par exemple, Qiyam al-Layl, ou bien les prières obligatoires qui se font à voix haute, comme le Maghrib, ou l'Isha, ou le Fajr, Subh, yani, eh bien, elles se font à voix haute, même pour les femmes. Si elles prient toutes seules à la maison, elles ont le droit de prier à voix haute. À l'époque de Sayyidina Omar al-Khattab, il y avait une femme qui était connue pour sa mémorisation du Coran et par sa voix éloquente et sa maîtrise de la récitation. Sayyidina Omar al-Khattab, le calife, venait la nuit s'asseoir sous sa fenêtre et il écoutait sa récitation. Il aimait écouter. Et donc, elle n'était pas à voix basse. C'est une femme, une compagnon du prophète.
C'est contrairement à ce qu'on nous disait.
Mais c'est faux, bien sûr. Non, bientôt, on va vous dire rentrez dans un placard et on vous enferme à double tour. Voilà, c'est ça le problème. Le Coran lui-même, quand il parle aux femmes du prophète, qui sont les plus sacrées, les plus à même à respecter une certaine réserve, au niveau des relations avec les sexes opposés, il dit, si vous voulez les interroger, et donc qu'elles vous répondent à vos questions, eh bien faites-le de derrière un voile. Donc ça veut dire qu'elles ont droit, les femmes du prophète, de répondre avec leur voix, avec leur corde vocale, de derrière un voile. « Wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Fa idha kan hunak su'al, hunak jawab. Jawab min ummahat al-mu'minin. » De la part des mères des croyants, les femmes du prophète alayhi salat wa salam. Donc arrêtons de mettre la femme à un degré d'avilité qui pour moi est scandaleux, tout simplement scandaleux. Il y a un patriarcat phallocrate qui est inadmissible.
Je suis d'accord avec vous et puis ça me fait super plaisir d'entendre ça.
Marabret qarar fa sawtak walakin ma tzaqij, pas besoin de crier fort, pas besoin de crier sur les toits. Pour ça, la femme ne fait pas l'adhan, mais elle peut réciter, normal.
Oui. Bon, merci pour la réponse. Et est-ce que je peux poser la deuxième question ?
Vite.
Alors, oui. Pendant la prière, si jamais il arrive qu'il y aura une des annulations de la prière, c'est-à-dire, par exemple, je m'excuse du terme, quelqu'un, malheureusement, il pète.
Il lâche un gaz.
Est-ce qu'il interrompt la prière tout de suite et il refait à zéro, ou bien en fait on interrompt et on refait là où on s'est arrêté?
Là où on s'est arrêté. Yabni ala ma salla alayh. Naam. Walakin bi shart an la yatakallam. À condition qu'il ne parle pas, qu'il ne fait rien d'autre qu'aller faire l'odo. S'il va faire l'odo et il reprend là où il est sans parler à personne, sans rien faire, que seulement aller faire les ablutions et reprendre, il peut continuer. Il y a un avis qui va l'autoriser à faire ça. Et un avis qui est même très très respectable. Donc, par contre, si l'âme chez la cousine ou l'âme chez Hadram Ashiwad ou là il répond au téléphone, ça c'est mort, il aura cassé sa prière. Mais il aura salli. Ou il rja ibni ala ma salla alayhi, naam, yajouz an yatawadda ou ala. Il ne recommence pas du début.
D'accord.
Très intéressante la question, très bien.
Oui, merci beaucoup à vous. Et puis j'ai un petit message pour vous, pour vous remercier parce que j'ai eu affaire avec vous pour une médiation pour mon couple. Et je vous dis
Je me disais, cette voix me dit quelque chose. ça s'est réconcilié dans votre couple?
Oui.
Super, je suis content pour vous.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est grâce à Rabbi Subhanahu et grâce à vous que mon mari, il fait la prière.
Masha'Allah, mabrouk alaykoum, mabrouk alaykoum. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, Inch'Allah, dans toute votre vie avec votre mari.
Merci à vous aussi, puis haftorkom, et merci beaucoup pour l'émission.
Merci Yassia. Abdella est à Toulouse, 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Abdella.
Oui, bonsoir, bon ramadan à tous.
Bon ramadan, ramadan Moubarak Karim.
Merci. Moi j'avais une question qui est assez simple, qui m'a toujours trotté dans la tête depuis que je suis gamin. C'est concernant les gauchers. Voilà, moi je suis gaucher, j'ai pas été conquis.
Moi aussi j'en suis un.
Voilà, super. J'ai pas été contrarié par mes parents qui étaient pieux.
Moi je l'ai été, je suis un gaucher contrarié moi. Puisque déjà, au niveau du pied, quand je tire au foot, je tire du pied gauche. Donc, je suis gaucher de nature. D'accord. Mais je suis maintenant droitier.
D'accord. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas été contrarié par mes parents. Donc, c'est ce que je disais, la yarahma. Par contre, ça m'a toujours contrarié par rapport à la religion. Enfin, ce n'est pas ce que ça m'a contrarié. C'est, je mange de la main droite. Parce que, je mange de la main droite. On m'a dit que ce n'était pas bien de manger de la main gauche. Donc, on ne mange pas de la main gauche. Et moi, j'aurais aimé avoir une explication de ça.
Alors, le prophète, comme il est dit quand on le décrit, il dit il aimait utiliser la droite à toute chose. Bien sûr, toute chose qui est noble. Hein, par exemple, prendre quelque chose, manger, écrire, manger, notamment manger. Et manger, il y a même un hadith qui vient ordonner à un enfant qui mangeait à côté du prophète, qui s'appelle Omar ibn Abi Salama, qui est le fils, donc son beau-fils, puisque plus tard le prophète va se marier avec sa mère, Umm Salama. Donc c'est Omar ibn Umm Salama, qui est le beau-fils du prophète, alayhi sallam, eh bien, va manger avec la main gauche et il va un petit peu, en plus, tripoter sa main un peu partout dans l'assiette collective. C'était une assiette collective, une grande gassa, kibira. Et là, le prophète lui dit, Ya Roulam, ô toi, le jeune homme, Sammillah, dis bismillah avant de manger, Koul biyaminika, mange avec ta main droite, ou Koul mimayalik, et mange devant toi. Dans l'assiette collective, quand c'est pas l'assiette collective, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais quand c'est une assiette collective, chacun il mange devant lui. Donc le prophète l'a bien ordonné. Et un jour, il y a un compagnon, le prophète il lui a dit Koul biyaminika, alors qu'il mangeait avec la main droite. Le compagnon, par orgueil, je dis bien par prétention, a dit La astatea. Il a dit Je peux pas. En gros, je veux pas. Laisse-moi tranquille. Le prophète a dit La astatea, idan la astata'at. Il dit Tant pis, tu n'y arriveras plus. Et il est dit que cet homme ne pouvait plus lever la main droite jusqu'à sa bouche. C'est-à-dire qu'il a eu une sorte d'handicap au niveau de la main. Cela a provoqué, l'invocation du prophète a provoqué malheureusement un handicap à sa main. C'est un bien sûr, ce hadith-là peut être contesté par les historiens, mais en tout cas, il existe. En tout cas, il y a une forte recommandation de manger avec la main droite. Maintenant, si je mange avec ma main gauche, que j'ai commis un péché, la réponse est non. Est-ce que c'est haram? Non. On va dire que c'est makruh. Que c'est déconseillé, que c'est détestable, mais est-ce qu'on va atteindre le degré de l'interdit, du prohibé? Non, ce n'est pas haram de manger avec la main gauche, mais que c'est déconseillé et que c'est, on va dire, fortement détestable. Voilà. Macro.
Merci pour votre question, Abdallah. Allô, l'imam, d'autres questions dans un instant, vous nous appelez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Ramadan Enco revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Voilà, et je vous rappelle qu'à 18h, vous retrouverez Kamel Chekat pour sa chronique Les contradictions supposées du Coran. Mais vous avez la parole et vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun. Ousmane Temerar est avec nous également sur ce plateau au 01 53 48 3000 et nous avons Souad avec nous. Souad, bonjour, bienvenue et bon Ramadan.
Merci, salam alaikum.
Wa alaikum salam, Souad. Marhaban.
Merci, Taïch, merci. J'ai une petite question en fait. Moi je connais Salat et tout, je fais ma prière quand je rentre à la maison le soir et ça fait beaucoup pour moi. En fait, je travaille toute la journée et je rentre à 19h. Du coup, je fais toutes les prières, à part Salat al-Subh ou al-Fajr, que je fais à la maison avant de sortir. Et du coup, ça me fait beaucoup. Donc, ma question, parce que j'ai entendu les jours précédents que vous avez dit qu'il y a des gens qui peuvent le faire au travail et tout. Je travaille dans un bureau. Et donc... Le seul problème, c'est que je mets pas le hijab.
Oui, d'accord.
Et donc
vous voulez prier assis, sans hijab et sans qibla, sans rien?
Non.
J'ai pas compris.
Non, bien sûr que non.
Comment vous voulez faire?
Je vais vous dire, c'est à vous de me donner une solution, parce qu'en fait, quand je rentre le soir à la maison, je suis épuisée.
Non, mais ça, j'ai compris, vous l'avez déjà dit. Mais vous me dites comment vous faites dans la journée alors? Comment vous faites là?
Rien du tout, je fais ma prière quand je rentre à la maison assise. Le problème, j'ai un problème de dos. Et donc, quand je travaille toute la journée, je suis très fatiguée, je fais ma prière assise. Mais
vous n'avez pas de pause, madame? Est-ce que vous prenez une pause?
Oui, bien sûr. J'ai une pause.
Bah, vous priez durant votre pause.
Du coup. Ouais.
Madame, Dieu dans le Coran, il dit wa aqimus salat, c'est-à-dire accomplissez votre prière debout. Il a pas dit sallu. Allah, il nous a pas dit sallu. Il a dit aqimus salat, c'est-à-dire faites cette prière debout. Celui qui l'a fait assis, c'est qu'il ne peut pas la faire debout, c'est-à-dire qu'il est handicapé. Il a ce qu'on appelle
il est
tétraplégique.
Mais est-ce que sa question c'est elle ne peut pas le faire parce qu'elle a mal au dos?
Pas tout le temps, quand je suis vraiment épuisée.
Non, mais c'est pas durant votre pause, vous pouvez prier. Parce que moi, ce qui me dérange dans l'affaire, c'est le retard de la prière, en fait. Hein.
Déjà, il y a
c'est
ça.
C'est surtout ça, en fait.
Ça me dérange, moi aussi. Oui, ça me dérange.
Voilà. Donc, est-ce qu'il y a possibilité pour vous de trouver un endroit dans votre lieu de travail pour prier durant votre pause?
D'accord.
Vous allez dans un endroit, vous priez.
Essayez de trouver un débarras ou un bureau désaffecté, voilà. Ou un endroit qui est désaffecté, un endroit qui n'est pas fréquenté, et vous mettez ce qu'on appelle, aujourd'hui il y a des hijabs, qu'on appelle une pièce.
J'en ai.
Une pièce, c'est-à-dire tout directement, ça couvre tout, le corps, les cheveux et tout ça. C'est le Qat'a Wahida. Ça se vend, moi j'en ramène souvent d'Arabie Saoudite. C'est très pratique parce que c'est une seule pièce et la femme, elle juste le met taxe en moins de 10 secondes, elle peut le mettre sur elle et prier en moins de 5 minutes, elle a terminé sa prière et elle repart au travail.
Super.
Mais vous faites debout, les prières obligatoires, elles sont debout. Sauf si vous êtes sur une chaise d'handicapé paraplégique, vous priez assis. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas-là, non. Je parle des prières obligatoires, attention. Pour les prières surrogatoires, vous pouvez. Ça, il y a une unanimité des savants, vous pouvez prier assis. Même Tarawih, vous pouvez prier assis, il n'y a pas de problème. Mais les prières obligatoires, on ne peut les faire que seulement si on est handicapé, vous devez les faire debout. Vous devez les faire qimus salat.
Ou parce que
d'accord.
Bon, il y a des cas particuliers. Je sais pas quel est son cas, madame, au travail.
Non,
elle court, elle marche.
Attendez, je parle pas d'handicapé.
Simplement, elle est fatiguée le soir.
Non, je parle pas d'handicapé.
Bah, je suis épuisée. Je vous dis pas parce que je passe beaucoup de temps sur la voiture.
Un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Pardon?
Je veux juste un instant. Je veux juste. Premièrement, vous pouvez regrouper les prières de jour ensemble.
Oui.
Ce qui fait que quand vous rentrez à la maison, vous priez les prières de
Maghrib et l'Aïcha
ensemble, comme l'imam l'avait indiqué il y a quelques jours, premièrement. Deuxièmement, est-ce que dans votre travail, vous risquez d'avoir des problèmes si on vous voit en train de prier?
Oui, justement.
D'accord. Est-ce que vous pensez trouver un endroit durant votre pause où vous pouvez vous éloigner et prier dans un
coin
tranquille?
Vous isoler, surtout, vous isoler.
Est-ce que c'est possible?
Ouais. Je pense que je vais le faire pour le ramadan.
Non, ma sœur, il n'y a pas de religion du ramadan et religion en dehors du ramadan. Non, mais arrêtez ces trucs-là. Je peux me maquiller pendant ramadan, mais pas en dehors du ramadan. Je peux faire la prière pendant ramadan, mais pas en dehors du ramadan.
C'est quoi cette
religion du ramadan? On dirait qu'on adore un dieu qui s'appelle ramadan. Je vous dis pas à vous madame, c'est pas à vous que je dis ça. Mais je.
Ouais,
attendez.
Philippe m'a dit d'être gentil aujourd'hui, je vais être gentil.
Attendez.
Non. Vous n'avez pas. Pendant le ramadan, tous les collègues sortent. Je serai toute seule au bureau, je peux la faire.
Ah, d'accord. C'est parce qu'il y a plus de facilité du fait que vous restez tout seul dans le bureau. C'est ça?
Exactement. Et pendant le ramadan, donc, j'allais vous expliquer.
D'accord.
Je sais, c'est clair.
Je sais qu'il
faut le
c'est
faire.
Clair.
Mais
d'accord.
Moi, ce que je vous dis, faites comme vous pouvez. Faites en sorte de faire vos prières à l'heure. Si vous ne pouvez pas, vous les rattrapez. Mais je pense, en tous les cas, si vous pouvez les regrouper, celles du jour, faites ça pendant votre pause, ça dure 10 minutes, et ensuite celle du soir, vous faites ça à la maison.
Il y a une autre solution, c'est que vous faites le Dhuhr al-Asr si vous n'avez pas d'autre choix. Si par exemple vous ne pouvez pas prier, vous faites Dhuhr al-Asr debout, en faisant 4 à 4. Ensuite, vous vous reposez. Et dans la nuit, je sais pas moi, avant l'aube, avant le matin, vous vous levez, vous salez le Maghrib al-Isha. D'accord.
Il faut se réveiller.
Oui, mais en tout cas, elle dit que 4 prières d'affilée, ça fait beaucoup. Elle n'est pas obligée. Le Maghrib al-Isha, vous avez toute la nuit, il y a une plage horaire pour faire le Maghrib al-Isha. Et normalement, Dhuhr al-Asr, vous ne pouvez pas les faire après le Maghrib. Vous devez les faire avant le Maghrib. Donc si vous les faites après, vous êtes en faute. Et donc, vous devez aller dans le sens d'essayer d'évoluer dans votre travail pour obtenir la capacité de pouvoir prier au moins le Dhuhr al-Asr le jour, avant le coucher du soleil, et le Maghrib al-Isha le soir à la maison quand vous rentrez. D'accord?
Merci, Souad, pour votre question. Allô, l'imam, au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Ramadan Enco revient dans un instant.
Suivez Ramadan Enco avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et Ousmane Timera qui est avec nous. Naïm est au standard au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan.
Merci, à vous de même.
Bonsoir,
bon
salam alaikum.
Ah oui. Alors, moi, j'ai plusieurs petites questions, dont la première est l'islam, un dieu, un prophète et 4 madhabs.
Mm-hmm.
J'aimerais comprendre
Pourquoi 4 madhhabs?
Alors, il n'y a pas que 4 madhhabs, il y en a beaucoup plus que ça. D'accord. Il y avait le madhhab al-Awza'i, hein. Il y avait le madhhab Soufiane al-Thawri, il y avait le madhhab de Layth ibn Sa'd, il y avait le madhhab même de Tabari, qui était à un degré de jtihad. Parce que tout simplement, comme le dit le verset 7 de la sourate 3, la sourate Ali Imran, il y a dans le Coran des versets sans équivoque, et il existe aussi des versets dont le sens est équivoque, c'est-à-dire fait l'objet d'interprétations diverses. C'est ce qu'on appelle en arabe mutashabihat. Ça, c'est une des raisons. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi sur la question de l'authentification des hadiths. Il y en a qui vont dire qu'un hadith il est faible, l'autre il va dire non, il est, pour moi il est valable, etc. Il y a ce qu'on appelle la méthodologie du droit musulman, les principologies, ou plutôt on sort le fiqh, qui est différent d'une école à une autre. L'autre, il va dire, moi, je préfère prendre un sens général que je veux prendre au sens particulier. Un sens propre, je vais le prendre au sens figuré. Il y a énormément de ce qu'on appelle en arabe, qawa'id, al-qawa'id al-lughawiyya, ou al-qawa'id al-tashri'iyya. Donc, c'est très complexe, le droit musulman. C'est pas quelque chose que, yallah, n'importe qui, il vient, et puis, il dit, voilà, moi, il y a un livre, il y a un Coran, il y a un Dieu, donc il doit y avoir une seule école. C'est pas vrai. L'islam, écoutez bien, ma sœur, c'est une autoroute. C'est une autoroute qui va vers la même direction. Mais il y a plusieurs voies. Vous pouvez être à droite, vous pouvez être au milieu, vous pouvez être à celle de gauche, et en plus celle d'extrême gauche. Je parle dans, vous avez des autoroutes à quatre voies. Mais est-ce que on est bien d'accord, les voitures qui roulent sur cette route-là vont tous vers la même direction? C'est-à-dire, en gros, l'islam n'est pas une raille. C'est pas un train qui est sur une raille. S'il déraille, tout le monde, il tombe et il meurt. Il se déraille et tout le monde crève. Non. L'islam, c'est une autoroute, fiha sa'a. Il y a de la flexibilité. Parce que le monde est diverse, l'humanité est diverse, les sociétés sont diverses, les cultures sont diverses, les mentalités sont diverses. Donc Dieu, dans sa grande miséricorde, sachant toute cette diversité, a laissé une certaine, on va dire, flexibilité dans l'interprétation des textes pour justement permettre d'adapter l'islam aux gens selon leur contexte dans lequel ils vivent. Vous comprenez ? Et il voyait en cela une miséricorde. Irtilaf ummati rahma. D'accord.
Après, il y a quelque chose sans doute qui est pointé par notre sœur, c'est la place que prennent un certain nombre d'avis juridiques particuliers, comme si ça devenait la religion elle-même, jusqu'à créer des divisions, jusqu'à créer des désaccords, et donc il n'y a plus même la route, là c'est carrément on prend un marteau et on casse tout. Et donc c'est vrai qu'il faut distinguer les règles d'application issue de la compréhension d'un imam selon le contexte, selon son goût, selon sa compréhension aussi, et le cœur et les principes de la religion. Les principes et le cœur de la religion ne font pas l'objet de divergences. C'est le point fondamental sur lequel tous les musulmans sont d'accord. Le problème, c'est que quand on fait de l'opinion de tel ou de tel imam, la religion elle-même, là, ça pose problème. Donc l'imam, il comprend, il propose une solution par rapport à une situation donnée. Il y en a qui décident de le suivre. D'autres décident de suivre quelqu'un d'autre. D'autres même pensent qu'ils sont assez autonomes pour réfléchir par eux-mêmes quand ils ont le niveau.
Je ne parlerai pas de divergence. C'était juste, par exemple, quand on posait une question, souvent les imams se réfèrent. Donc, l'imam Abdelmoum disait qu'il y avait plusieurs madhhabs. Mais en général, on se sert de quatre madhhabs. Et quand on ne trouve pas une réponse dans l'un, on va chercher dans l'autre.
Oui, bien sûr. Effectivement, il y a quatre écoles qui sont, on va dire, celles
c'est
qui sont...
sunnites.
Et en plus, c'est sunnite, effectivement. Ah. On parle des quatre écoles sunnites. Mais ce sont quatre écoles qui sont, on va dire, pratiquement complètes, qui abordent tous les chapitres du droit musulman. Mais il existe effectivement des savants qui étaient aussi savants que les fondateurs des quatre écoles, qui avaient le même degré de connaissance, voire même plus pour certains. On sait que, par exemple, Al-Layth ibn Sa'd était plus faqir que l'imam Malik. Voyez, et pourtant, Al-Layth ibn Sa'd n'a pas d'école juridique. Pourquoi? Parce que l'imam Malik avait un soutenant, un sponsor, comme on pourrait dire dans un terme contemporain, qui s'appelait Abu Ja'far al-Mansour, qui était l'un des califes de la dynastie abbasside, et qui voulait même imposer le Muwatta à toute la Umma, le Muwatta qui est l'ouvrage de l'imam Malik. Donc lui, il a eu soutien de l'État, l'autre n'a pas eu. Donc il n'a pas pu propager son école. Mais pourtant, il était plus savant. Donc finalement, à la fin, on se retrouve avec quatre écoles complètes et plein d'avis divers de d'autres savants qui avaient le même degré de connaissance que ces quatre grands savants.
Et Naïm, moi ce que je vous propose, c'est de nous retrouver un autre soir pour poser la suite de vos questions, puisqu'il est 18h et qu'à 18h tous les soirs, nous retrouvons Kamel Shekat, chercheur en théologie, membre fondateur des Oulémas du Sahel, et qui vient avec nous tous les soirs nous proposer sa chronique qui s'appelle « Les contradictions supposées du Coran ». Bonsoir et bienvenue Kamel.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum salam. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. جاء الشيخ لتفريج تفريج الهموم والكروب والأحزان وال ويوسع المضيق.
Selon le maître, le mot cheikh, normalement on devrait tous travailler, non pas sur le mot cheikh dans le sens conventionnel, celui qui a acquis beaucoup de sciences, etc., mais sur un acronyme. Cheikh signifie pour les arifin, shabun yakhsha khaliqahu. Donc un jeune qui craint son créateur. Et puis ce que nous avons remarqué, enfin ce que j'ai pu remarquer chez certains de mes maîtres, en l'occurrence Cheikh Tariq Al-Jaf, qui est mort à l'âge de 106 ans, et bien il est resté jeune hein, physiquement. Et il était vraiment en bonne santé. C'est-à-dire que l'ajal khat, bien sûr il est tombé malade quelques jours avant sa mort, mais c'était pas tellement lourd comme maladie. Enfin, allez, je me lance. La supposée contradiction à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui concerne Jésus, alayhi salam, Jésus, fils de Marie. Certains ont relevé ce qu'ils ont vu comme une contradiction. Pourquoi ? Parce que Jésus, alayhi salam, parle au verset 33 de sourate Maryam, alayhi salam, et dit: que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité. Ce qui borde beaucoup de musulmans, sachant que Jésus a été élevé au ciel, la dernière partie du verset, là où il dit, le jour où je serai ressuscité vivant. Beaucoup pensent que ça indique le retour de Jésus. Que non, ce verset veut dire que Jésus, alayhi salam, est passé ou passera par toutes les étapes par lesquelles nous passons tous, la naissance, la mort et la résurrection. Comme cela est connu dans toutes les religions, même celles ayant précédé le judaïsme, le christianisme et l'islam. Or, nous lisons au verset 157 de Sourate An-Nisa, la parole de Dieu qui dit, et ça parle des enfants d'Israël qui ont tenté de tuer Jésus, et certains d'entre eux le disent même jusqu'à présent. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Et le fait qu'ils disent « nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah ». Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais c'est bien l'illusion qui les a possédés. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine et ils ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Alors là, on nous dit, d'un côté, Jésus était sur lui, il dit qu'il mourra, et d'un autre côté, Dieu, selon le Coran, nous dit qu'il est toujours vivant, quelque part. Nous dira concernant le verset 33 de Sourate Maryam, qui dit « Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant », personnellement, je dis que oui, Jésus, tout être humain qu'il est, passera par la mort. Et c'est ce que dit ce verset, justement. Sauf que la tradition prophétique nous dit qu'il a été élevé par Dieu, ce qui veut dire qu'il est toujours vivant dans une autre dimension et qu'il ne mourra qu'après être revenu pour tuer l'Antéchrist. Pour ce qui est maintenant du verset 157 de Sourate An-Nisa qui dit « Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais l'illusion les a possédés », bien sûr, nous musulmans, quand nous parlons quand nous faisons des études comparatives, Bible-Coran par exemple, nous pouvons même donner et trouver des traces de ce que dit le Coran, dans l'Évangile selon Matthieu et même selon Marc. Mais les deux versets ne sont pas en contradiction. Et pour preuve aussi, cette notion, et que la paix sera sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant, nous la retrouvons aussi dans Sourate Maryam, mais concernant Yahya, fils de Zacharie, c'est sur eux deux. Yahya, Jean le Baptiste, où le verset, le verset 13, si je ne m'abuse, ou le verset 15 plutôt, dit que la paix soit sur lui, le salam alaykoum al-Malik, que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité. Ces deux versets indiquent que nous sommes là face à deux prophètes de Dieu qui jouissent d'un statut hautement élevé. Jésus, alayhi salam, pour Yahya, pour Jean-Baptiste, parce qu'il est mort en martyr et qu'il a toujours été dévoué à Dieu, mais pour Jésus, alayhi salam, le fait de dire salam alayhi, que la paix soit sur moi pour la naissance, pour la mort et même le jour de la résurrection, c'est parce que en disant cela, c'est comme s'il gardait ce statut de prophète de Dieu. Et dans la tradition musulmane, nous savons que quand Jésus reviendra, il reviendra en tant que prophète, il vivra parmi les musulmans en tant que prophète de Dieu. Sauf que la loi qu'il aura entre les mains, ça ne sera plus la Torah comme c'était le cas lors de sa naissance, ça sera plus le Coran. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux versets. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et puis Sartokom et prenez soin de vous.
Merci, Kamel.
Et puis il y a aussi un autre verset, cher, qui dit quoi ? وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَ. Et il parlera aux gens alors qu'il est dans son berceau, et Kahla alors qu'il est vieux. Donc forcément, vieux, ça veut aussi dire qu'il vieillira. Donc là, il a été élevé alors qu'il n'a que 33 ans. Il faut bien qu'il y ait le fait qu'il parle en étant vieux. Kahla, ça veut dire d'un certain âge quand même.
C'est 40 ans. Non, mais le verset 33, c'est quand il a parlé dans le berceau. Hein, le verset 33 de Sourate Maryam. Salam alayhi wa sallam.
Non, si je ne parle pas de ce verset-là. Moi, je parlais « Wa yukallimu an-nas fil mahdi wa kahla ». Ce verset-là. Est un autre verset dans lequel il est dit qu'il parle aux gens alors qu'il est dans le berceau, donc bébé, mais aussi un autre qui dira qu'il parle quand il est vieux. Et donc forcément, il faudra qu'il ressuscite et qu'il revienne sur terre pour vieillir et parler dans sa vieillesse. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Barakallahu fik.
Kamel Chekat, tous les soirs du mois de Ramadan sur Beur FM. À demain, Kamel. Et la suite de vos appels à l'Oulimam au 01 53 48 3000. Alors nous avons Aïcha qui est avec nous. Aïcha, bonsoir, bienvenue, bon Ramadan.
Allô.
Allô Aïcha.
Salam alaikum.
Oui, salam alaikum.
On écoute votre question.
Salam alaikum, Cheikh.
Wa alaikum salam, le jami'a.
Arhamou alaik. Khabarni wahd li ma yebghish yirad ad-din. Quelqu'un qui ne veut pas rembourser. J'ai prêté de l'argent à une personne et elle ne veut pas me le rembourser. Au moins, je ne la pardonne pas.
Vous avez le droit. Vous avez le droit. Le prophète dit que rien ne peut permettre que quelqu'un soit pardonné d'une dette qu'il refuse de rembourser alors qu'il a les moyens de le rembourser. Même s'il meurt shahid. C'est-à-dire même s'il meurt au combat... pour la cause, pour promouvoir la paix et promouvoir la justice de Dieu, etc. Eh bien, même celui qui meurt martyr, qu'on appelle le martyr, n'est pas pardonné de ses dettes. Un jour, le prophète, on lui a présenté une janaza, c'est-à-dire une tombe, c'est-à-dire une personne qui venait de mourir. Et là, il a interrogé les gens, il leur a dit, est-ce qu'il a des dettes? C'est-à-dire, la personne qui est décédée, est-ce qu'il a des dettes? Les compagnons ont dit, si, il a laissé des dettes. Et là, le prophète a dit, sallu ala sahibikum. Faites la prière sur votre ami, sur votre copain, votre gars, là. Il dit, ana, rasoul, maradish, nsalli alayh. Ala, parce que, khallad din. Donc, din, c'est grave. Faut pas laisser din. Et le prophète dit dans un hadith, mutlul ghani dhulmun. Celui qui a les moyens de rembourser, qui ne paye pas, commet une injustice. Mutlul, c'est-à-dire, ta'khir, le fait de retarder le remboursement d'une dette qu'on peut rembourser, on a les moyens et on ne le rembourse pas, est considéré, comme le dit Dieu dans le Coran, dans le hadith du prophète, excusez-moi, le prophète dit, « Motlul ghani dhulmun », c'est une injustice. Donc cette personne-là qui rembourse pas sa dette, il sait, il faut qu'il sache qu'il a commis, il commet une injustice qui ne lui sera pas pardonnée, tout simplement. Il devra rendre des comptes le jour de la résurrection. Wallahu alam. Salam alaikum.
Merci Aïcha. Anna est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan Anna.
Oui, salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Oui, j'espère que vous allez bien.
Rabbi hafdak akhti, alhamdulillah.
Ala kulli hal. J'avais deux questions. La première par rapport à mon fils, il a presque 11 ans et je voulais savoir comment je peux savoir quand est-ce qu'il doit vraiment faire le Ramadan tout en entier.
Vous savez ce que ça veut dire le mot puberté ?
Oui.
Ben voilà, quand il est pubère, il doit faire le Ramadan. Mais là, vous pouvez déjà l'encourager, lui faire faire des exercices de jeûne.
Oui.
En le faisant jeûner quelques jours du mois du Ramadan, c'est bien.
Faut pas oui, comme... il le fait généralement, il fait le samedi dimanche et des fois le mercredi
voilà.
Vu qu'il fait du judo.
Oui. Ah, mais quand il aura la puberté, quand il atteindra l'âge de la puberté, ça sera obligatoire tout le mois. Il devra jeûner tout le mois.
Mais après, il y a des enfants qui ont une puberté très tard, donc je me dis, est-ce que c'est pas...
Non. Tant qu'il n'est pas pubère, il n'y a pas d'obligation.
D'accord.
Hatta yablour. Le boulour, en arabe, ça s'appelle le boulour. C'est le boulour qui fait que l'homme devient mukallaf, c'est-à-dire il devient responsable et d'assumer cette injonction d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la manière qui nous a été enseignée par notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
D'accord.
Voilà.
Et ma deuxième question, c'était par rapport à la prière. Par rapport à la femme, est-ce qu'elle doit se couvrir les pieds avec des chaussettes à chaque prière ou c'est vraiment...
Alors, l'école malikite ne l'impose pas, considère que les pieds n'est pas une aura. Pour les trois autres écoles, ils considèrent que c'est une aura, c'est-à-dire que c'est une partie intime qu'elle doit cacher dans sa prière. Donc moi, je vais vous dire une chose. Écoutez, si vous avez une robe longue, qui est très longue, qui touche le sol et qui donc cache vos pieds, vous n'avez pas besoin de mettre des chaussettes. Si votre robe est un peu courte et on voit les pieds, de préférence, vous mettez des chaussettes. Mais si vous ne les mettez pas, ce n'est pas grave. Il y a un avis, il y a une école qui l'autorise. Ça va comme ça ?
Oui, ça va.
Eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage. Salam alaikum.
Je vous souhaite une bonne
réussite. Sahar Ramdanak ou
Sahar. Merci, Anna. Jamila est là. Jamila, bonsoir, oui, bienvenue, bon Ramadan.
Merci.
Wa alaikum salam wa
rahmatullah.
Wa anti min al khair,
Inch'Allah, Inch'Allah. Je voulais juste. J'ai deux petites questions. La première.
C'est bien parce que je dis en début d'émission qu'il faut poser une question oui, tout le monde dit j'ai deux questions. Donc demain je vais dire. J'ai dit, vous posez trois questions.
Elle n'a pas entendu parce qu'elle n'était pas là au début.
D'accord.
Elle n'était pas là au début.
Juste de
rejoindre l'émission. D'accord.
De rejoindre, oui.
D'accord. On y va. Allez-y. Votre question, ma soeur.
Alors, Jamila, voilà. On vous écoute.
Pour les prières, parce que je travaille. Et voilà, je travaille à la fonction publique et c'est un peu délicat. On ne peut pas faire la prière ou quoi que ce soit. Et je fais toutes mes prières le soir quand je rentre.
Ben on voit bien que vous venez de vous connecter. Parce qu'on a répondu à la même question tout à l'heure.
Ah, d'accord.
Et donc, c'est quoi votre question ?
Il n'y a
aucun endroit à votre pause où vous pouvez aller prier.
Non, parce qu'il y a une collègue qui a fait la prière là pendant le Ramadan. Elle est jeune, une jeune fille. Moi, je fais de la prière depuis 50 ans. Mais une petite collègue qui a fait la prière, et ben,
elle a été licenciée.
Elle s'est tapée sur les doigts, quoi.
Ouais, elle s'est fait gronder.
Elle a pris une note de service.
D'accord. Ouais. Alors, écoutez, ma sœur, il faut impérativement que vous organisiez votre temps de travail pour que vous ayez une pause pour aller faire votre prière à l'extérieur si vous ne pouvez pas le faire à l'intérieur. C'est quoi, dans une école, c'est quoi?
Non, dans une crèche.
Ouais. Bon, crèches, voilà, vous sortez. Si la maison, si vous habitez pas trop loin, vous rentrez chez vous, faites la prière et vous revenez.
J'habite trop loin. Justement, si j'habite pas loin, mais est-ce que je peux la faire sur ma voiture?
Non, vous pouvez pas la faire assise. La prière obligatoire de se faire debout. Allah, il dit wa aqimus salah. Si vous êtes handicapé, vous pouvez la faire assise dans votre voiture. Vous êtes handicapé?
Est-ce que prier assise dans sa voiture, mais à l'heure, est-ce que c'est pas mieux que de prier et tout rattraper le soir?
Parce que la prière assise n'est pas valable, tout simplement. لَقَدْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ لِهُوَ الْقِيَامِ الْقِيَامُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ مَنْ تَرَكَ رُكْنًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَمَّا تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَلَكِنْ أَخَّرَهَا عَنْ وَقْتِهَا. Il a retardé la prière à une autre, mais elle est quand même valable, alors que là elle est même pas valable. elle est censée prier debout et maintenant moi ce que je vous dis ma sœur, essayez d'évoluer dans votre carrière professionnelle pour faire en sorte que vous puissiez faire vos prières au moins Dhuhr al-Asr le jour avant le coucher du soleil et le Maghrib al-Isha le soir en rentrant à la maison. Ça c'est le minimum qu'on peut avoir comme dérogation, mais on peut pas faire plus. Retarder toutes les prières le soir, hada la yajuz al-Asr. On ne peut pas faire ça normalement.
Mais entre les deux alors. Hein? Elle choisit lequel entre les deux, si elle ne peut pas.
Ah, c'est donc, ce soir, le soir. Parce que sa prière assise n'est pas valable. Tarakat ruknan. Tarku ruknan min arkan as-salat batil. Wa lam yarid an as-salam salla jalisan salat al-farida. Même en voyage, quand il était sur son chameau, il priait beaucoup de prières surérogatoires. Mais quand venait l'heure de la prière, il faisait asseoir sa monture, c'est-à-dire sa chamelle. Il descendait et priait debout.
Oh, mais le prophète ne travaillait pas dans ces conditions.
Il était en voyage, il avait des déplacements, il avait des contraintes.
En fait, on lui dit à la dame qu'il est préférable pour elle, si elle peut prier dans sa voiture à l'heure, elle ne le fait pas parce qu'il faut qu'elle reste debout. Par contre, elle doit rattraper toutes les autres prières. Donc rater les prières à l'heure.
Ça veut dire qu'elle a une voiture, elle peut se déplacer. Elle peut peut-être trouver un endroit isolé quelque part, je sais pas moi, un jardin ou une mosquée, pourquoi pas. Il y a des salles de prière partout maintenant. Il y en a 320 en Île-de-France. Il y en a 320 en Île-de-France. Elle nous appelle d'où la dame?
Île-de-France.
Oui, mais c'est où? Allô?
Oui, Saint-Denis.
Saint-Denis, il y a au moins une quinzaine de mosquées à Saint-Denis. Attends, arrêtez. Il y a des mosquées partout. Donc elle quitte le travail avec une mosquée, elle revient.
On reviendra sur cette question dans un instant. La chronique de Osman Timara. Et vous savez, comme tous les soirs, on rêve tous de changer le monde.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et l'Aden ce soir, Baï Mamoun, c'est à 19h08 en direct.
Oui, Charles, voilà. Baï Mamoun?
Baï Mamoun.
D'accord.
Ouais. You know Baï Mamoun?
Yes, I know.
D'accord, très bien.
Thank you, my friend.
You're very welcome, Baï Mamoun. Donc 19h08, c'est une exclusivité Beurre FM en direct.
Thank you so much.
Mais tous les soirs, nous rêvons tous de changer le monde avec Ousmane Timara.
Oui, on rêve tous de changer le monde, comme disait le rappeur. Et Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les membres de ce peuple ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Les amis, j'ai des convictions. Je vais vous les énumérer. Des positions que l'on peut appeler de politique. Je suis pour le partage du pouvoir. J'estime que chaque individu dans notre pays a le droit d'intervenir dans le champ politique et décider de l'avenir du pays. Je veux une démocratie radicale. Je suis pour le partage de l'avoir. Je suis pour le fait que les biens qui s'accumulent dans ce pays et qui sont de façon éhontée concentrés entre les mains de quelques-uns soient mieux partagés. Je ne veux pas voir des rats passer avec mes enfants le bac ou le brevet tel que cela se passe en ce moment dans certaines écoles de notre pays. Je suis pour le fait que l'environnement dans lequel nous nous trouvons soit protégé, soit considéré comme un don de Dieu. Et ceux qui ne croient pas en Dieu soient considérés comme une beauté dont nous avons la charge et que nous devons respecter. Je suis pour le fait que les damnés de la terre, ceux qui sont considérés comme des moins que rien, les petits, les gens qui sont dans les quartiers populaires, les banlieues, les gens comme nous, eh bien, participions clairement au changement de ce monde, parce que si c'est pas nous qui le changeons, ceux d'en haut n'ont aucune envie de le changer. Ce sont les principes fondamentaux sur le plan politique que je partage avec vous depuis tant et tant de jours. Cependant, sommes-nous en démocratie? Est-ce que dire qu'il suffit que nous nous précipitions comme des moutons de Panurge où nous sommes pousser à aller dans un coin, un isoloir, pour jeter un petit bulletin, est-ce que cela suffit à dire que nous sommes en démocratie? Est-ce qu'au fond, la démocratie n'est pas, telle que nous la comprenons aujourd'hui, une forme en réalité d'aristocratie élective? C'est-à-dire que il y a une contradiction entre l'idée de démos du peuple et Kratos, le pouvoir, le fait que ce soit le peuple qui décide pour lui-même et par lui-même, il y a une contradiction entre cela et le fait d'aller mettre un bulletin pour
élire une personne qui décidera pendant un mandat entier à notre place. Et nous ne pouvons d'ailleurs même pas changer sa décision. Si vous revenez dans les révolutions américaines, dans la révolution anglaise, dans la révolution française, et que vous écoutez attentivement les pères fondateurs de ces différents régimes, ils avaient en horreur ce que ils appelaient la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Ils le disaient à chaque reprise, nous ne voulons en aucun cas de la démocratie. D'ailleurs, pendant 2000 ans, de Aristote à Platon, en passant par tous les autres philosophes et théologiens, la démocratie était considérée comme le pire des régimes. La chose horrible qui laissait aux gueux, comme vous et moi, la possibilité d'intervenir. Sommes-nous en démocratie dès lors que nous savons que les pères fondateurs de nos régimes disaient que ce n'était pas une démocratie qu'ils mettaient en place, que c'était en réalité une forme d'aristocratie. Celle-ci n'est pas héréditaire, comme à l'époque de la noblesse. Mais nous, bourgeois que nous qui sommes dotés d'argent, avons le droit de pouvoir diriger. Mais en aucun cas, les pauvres, les gueux, qui si jamais ils viennent dans l'arène du pouvoir, risqueraient de dire tant et tant de choses qui ne sont pas de l'ordre de nos intérêts. Sommes-nous en démocratie ? Il n'en est en aucun cas question. Nous sommes dans une aristocratie élective qu'ils ont réussi à faire passer comme étant une démocratie. Et c'est depuis lors dans ce genre de régime que nous sommes. Nous le voyons en Afrique où cela ne marche pas. Nous le voyons dans les pays arabes où cela ne marche pas. Nous le voyons dans différents pays, le plus grand pays démocratique du monde, les États-Unis, qui n'est en réalité qu'une oligarchie, une plutocratie, c'est-à-dire le pouvoir des gens qui possèdent, le pouvoir des gens qui ont les moyens d'orienter sur le plan médiatique les consciences. Il s'agit pour nous de changer ce type de régime, d'aller vers plus de démocratie, parce que nous sommes tous également dotés de bon sens. Sans technicité, nous sommes capables de savoir ce qui est bon ou pas pour notre pays. Il s'agit de monter, de penser un véritable régime où nous tous pouvons avoir le droit de nous exprimer, soit par référendum, soit par des représentants que nous pouvons contrôler, et soit par d'autres modalités d'intervention pour pouvoir décider de notre avenir. C'est ce que le Coran appelle « Shura Beynahum ». Alors, les musulmans ont été aussi les premiers, au même titre que Aristote ou Montesquieu ou Sieyès pendant la Révolution française, à restreindre l'idée de Shura, à restreindre l'idée de délibération du pouvoir en disant c'est quand même quelques personnes qui peuvent décider. Hein. On ne peut pas laisser ça, les kulli man habba wa dab, on ne peut pas laisser ça entre n'importe quelle personne qui vient, un lambda, un kidam, pour pouvoir décider de notre destin. La même réaction oligarchique a fait qu'on a réinterprété les passages du Coran, qui allait plutôt dans le sens de ce que les philosophes ne voulaient pas, c'est-à-dire la véritable démocratie. Dès lors que nous sommes tous les fils d'Adam, que nous partageons la même dignité et que nous avons le même bon sens, il n'y a aucune raison qu'un Macron, qu'un Mélenchon, qu'un Mobutu ait plus de pouvoir que moi, si ce n'est par les armes qu'il arrive à imposer dans le cas de Mobutu sur ma tête. La France a besoin de devenir une véritable démocratie au-delà du mot qu'elle trahit chaque jour en ne laissant pas la possibilité aux populations de choisir leur destin au-delà des élections. C'est grave ce que je suis en train de dire. Mais on ne change pas le monde avec des cacahuètes. On le change avec de l'audace.
Ousmane Timera. Tu as 3 minutes pour réfléchir.
Inch'Allah.
Donc, 19h08, hein, pour l'être en direct ce soir, Imam Abdelali Mamoun.
Oui.
Voilà, vous avez le temps pour vous chauffer la voix.
Inch'Allah.
Voilà, et je vous rappelle que le retour du very important auditeur, on vous explique comment tout à l'heure, et vous nous expliquerez au top départ.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Beurre FM, Ramouvision, le Coran en arabe et sa traduction en français.
A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux,
le très miséricordieux. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait ? Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
Avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés. Or, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
Voilà un exposé pour les gens, un guide et une exhortation pour les pieux.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
Ne vous laissez pas battre. Ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants.
إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-nous alterner les jours, bons et mauvais, parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru, et qu'il choisisse parmi vous des martyrs. Et Allah n'aime pas les injustes. Et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants.
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.
Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants ?
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
Bien sûr, vous souhaitiez la mort avant de la rencontrer. Or vous l'avez vu, certes, tandis que vous regardiez.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
محمد n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons et nous récompenserons bientôt les reconnaissants.
قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
Combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants.
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
Et ils n'eurent que cette parole: Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants.
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
Allah donc leur donna la récompense d'ici-bas ainsi que la belle récompense de l'au-delà. Et Allah aime les gens bienfaisants.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, le Ramadan, 30 jours avec vous.
Et je vous rappelle que tous les soirs de ce mois de Ramadan, vous êtes gâtés par Mo le patron si vous êtes le very important auditeur. C'est peut-être vous qui repartirez avec une télévision connectée de 32 pouces ou un robot aspirateur d'une valeur de 200 euros. Mo le patron, c'est 4 adresses en France, Imam Abdelali.
Oui, Oni, à côté de Cergy, Buchelet à Mantes-la-Jolie. Donc c'est Tourcoing, dans le Nord. Et puis Aucanville,
donc vous l'aviez, voilà, à côté de Toulouse,
dans le Sud.
Voilà, et vous téléchargez.
Au Nord, au Sud et au Centre.
Et vous partout. Et vous téléchargez une application.
Mo le patron, c'est important de préciser, c'est M-O-H, Moh le patron. Diminutif de Mohamed.
Bon, tout à l'heure, c'est peut-être vous qui serez avec nous, mais on vous donnera le top départ. Donc ça ne sert à rien d'appeler maintenant parce qu'on vous appellera tout le monde. Et puis après, vous aurez tous la chance de participer au tirage au sort de l'auditeur VIP. Imam Abdelali.
Une chanson, c'est ça que tu veux?
Oui, exactement.
Je pensais que tu allais dire DJ Abdelali bientôt.
DJ l'imam.
D'accord.
DJ l'imam.
Abdelkader Qawza, un yéménite qui chante une belle chanson et qui dit le Ramadan c'est une belle histoire. On l'écoute. Hikaya, comme il dit.
Ousmane Timira, une sourate bien comprise.
Il y a un passage du Coran qui m'a toujours interpellé quand j'étais plus jeune. Je trouvais tellement extraordinaire. Je demandais à ma mère souvent, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs couleurs? Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs religions? Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs... Voilà, Dieu aurait pu faire en sorte qu'on soit tous pareils, la même tête, la même religion, et puis voilà, on est tranquille, on est cool. Et il y a ce passage du Coran de la sourate Al-Hujurat que le cheikh connaît très bien, et qui est une réponse extraordinaire. Et souvent, je me dis, mais c'est dans le Coran, ça? Et souvent, quand on le récite, même, il y a des gens qui disent, mais tu l'as inventé, c'est pas dans le Coran.
C'est du teasing qui nous fait.
Ah ouais, dis-nous, c'est quel
Coran? T'as envie de lui dire, alors vas-y.
C'est le passage qui dit « Ya ayyuhan nas, ô être humain, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, et nous avons fait de vous des tribus et des nations différentes. »
Non, et des kabiles, et des kabiles.
Ah, lita'arafu, pour que vous vous entre connaissiez. Et là, on voit, c'est extraordinaire. La réponse est claire. Mais non, en fait, Dieu le dit clairement. Il y a des hommes et des femmes. On est tous des êtres humains, mais il y a des hommes et des femmes. S'il n'y avait que des hommes, ce serait une catastrophe. S'il n'y avait que des femmes, bon, on ne serait même pas là pour en parler. Deuxièmement, il y a des tribus différentes, des ethnies différentes. Plein de diversité d'êtres humains. Et il y a des nations aussi qui sont différentes. Mais là, pourquoi Dieu t'a fait ça? Pour que le blanc soit meilleur que le noir soit meilleur que le blanc. Bon, c'est rare ça. Ou que l'homme et la femme se crêpent le chignon et sachent qui c'est qui commande pour l'autre. Ou que les Américains ou les Blancs ou les Européens disent qu'ils sont les maîtres du monde et que les autres disent non, 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 c'est nous. Non, l'ita'arafu. Le but, c'est qu'il y ait de l'entre-connaissance entre vous. Et nous, on a la chance d'être une communauté musulmane où il y a plusieurs ethnies. Pourquoi n'appliquerions-nous pas ce principe-là de sorte qu'il y ait des endroits, des lieux où on apprend à connaître notre diversité, la richesse que Dieu subhanahu wa ta'ala a mis en l'être humain pour créer de telles beautés, de telles merveilles culturelles, linguistiques et autres. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est l'un des passages les plus extraordinaires. Et on peut dire, mais chapeau, vous avez un livre qui dit ça. Dans un monde où aujourd'hui on parle de classe et civilisation et d'intégration, d'assimilation et de dégager les immigrés. Non, c'est pas ça. C'est pas ce pourquoi l'humanité a été créée. Donc c'est vraiment un passage qui me plaît.
Et surtout que ça peut aussi atténuer l'excès d'enthousiasme que peuvent avoir certains quand ils sont convaincus que l'islam est la vérité et ils veulent l'imposer à tout le monde. Il faut arrêter votre délire. C'est pas parce que vous êtes convaincu que l'islam est la vraie religion que vous devez l'imposer à tout le monde. Cet esprit islamisant et islamiste, entre guillemets, qui veut que tout le monde
entier... Islamiste et islamisant, c'est pas pareil.
Bah, islamisant, c'est-à-dire qui veut islamiser les autres. Mmh. Qui veut, par exemple, islamiser l'Occident, islamiser tout le monde. Mmh. Faut que le monde entier adhère à l'islam. C'est complètement absurde. Et il y a un verset, je crois, c'est dans Sourate Ibrahim, le verset 48 ou 148, je crois, qui dit « وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا » Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous d'une seule et même communauté.
C'est dans la sourate Al-Ma'ida, effectivement.
Ouais, Qu'est-ce qu'il dit à tous ces hommes de différentes confessions? Concourez dans le bien. Dieu vous informera de ce sur quoi vous êtes. Voilà, il tranchera vos différends que vous avez sur terre aujourd'hui. Et c'est dans le jour de la résurrection que cela se passera. Pour l'instant, c'est le défi qui nous est relevé, c'est de pouvoir s'entendre malgré nos différences. Donc c'est pour ça qu'il faut s'imprégner d'altérité. L'altérité est une valeur très très importante qui encourage les gens à accepter la différence des autres et les choix des autres. C'est très important de s'imprégner d'altérité, accepter que d'autres pensent autrement et aient des croyances autres que la vôtre. Et c'est comme ça la vie.
On devrait faire lire ça aux...
Et la nature, regarde comment elle est. Elle est bleue, elle est verte, elle est blanche, elle est jaune, elle est grande, elle est petite, elle a toutes les formes, toutes les couleurs. Pourquoi vous voulez que les humains soient différents que la nature ?
Non,
on est à l'image de notre nature, du reste de la création de Dieu.
Et c'est la grandeur de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui s'exprime.
Bien, top départ, si vous voulez être le verré important auditeur, 01 53 48 3000, c'est maintenant que vous pouvez appeler 01 53 48 3000.
Bah, ouais, tout de suite, le standard est blindé.
Non, non, mais attends, là c'est des gens qui viennent de rentrer dans le standard, voilà. 01 53 48 3000. C'est bien d'avoir les nouveaux, parce qu'il y en a qui attendent depuis une demi-heure, mais il y a des gens qui essayent d'appeler, qui n'arrivent pas à nous avoir, et qui disent, ouais, mais comment ils font les autres?
Qui sera ce soir le VIA? Very important.
Ça, je sais pas. C'est comme il dira Ousmane, mais non, Ousmane, il a dit hier, en plus, ce numéro. Là, c'est l'agent Fofo.
Allez, vas-y, l'agent Fofo.
C'est l'agent Fofo qui va donner le numéro ce soir.
Ouais, mais faut pas qu'il regarde sur l'écran.
Ah, mais c'est pas grave.
Il faut pas qu'il triche. Il a dit numéro 4.
Bon, il l'a pas dit.
Bah, il l'agent
Fofo,
du doigt.
Quel numéro?
Bah, il a dit 4.
Bon, allez, ligne numéro 4.
On y va.
Alors, qui est sur la ligne numéro 4? Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, je suis trop contente, c'est Saïda de Toulouse.
Ah, ça fait plaisir d'entendre une Toulousaine, Saïda. Eh bien, c'est quoi? Ça fait plaisir de vous faire plaisir, comme on dit.
Ah oui, vraiment, Barclan, c'est quoi?
Saïda à Toulouse, c'est à quelle heure l'Aden à Toulouse? C'est passé, non?
Ouais,
ah
je
non,
crois.
C'est à 17.
À 17. Ah,
c'est 17. Après,
ah, ils sont plus tard. Ils sont plus tard.
19h17.
Ah ouais. Ah, vous avez encore le temps, vous, Saïda.
Et nous, oui, bon, 5 minutes dans la cuisine à courir encore.
D'accord, Inch'Allah.
Qu'est-ce que vous avez préparé ce soir?
Ah, ben, il y a de la soupe, il y a des sushis, il y a un petit peu des crevettes sautées à la sauce piquante, il y a des... Ben, en fait, c'est ma fille qui avait fait ça hier, et voilà, on mange un petit peu les restes.
Des crevettes à la sauce piquante, hein, ça me donne envie de prendre le TGV, là, de partir direct à Toulouse, là, bismillah.
Le ramadan a bien changé, il y en a qui mangent des sushis, là,
des sushis, c'est des sushis ou des makis?
Des sushis. Non, des sushis faits maison par ma fille.
Elle utilise les algues ou pas?
Oui, bien sûr. Oui,
ah bah
oui.
C'est des maquis là, non? C'est pas comme ça qu'on appelle ça?
Non, ah non. Mais peut-être.
C'est des maquis, je crois. Quand il y a le sushi, c'est juste le riz avec le saumon. Alors que le maquis, c'est avec l'algue, l'algue verte là.
Manuel Mariani sort de ce corps.
Voilà, sort de ce corps. J'ai été envoûté par le fantôme de Mariani.
Bien. Alors, est-ce qu'il y a des gens à qui vous voulez passer un message ce soir?
Il y a déjà toute ma famille, à vous. Déjà, je suis une fidèle, je dirais, auditrice depuis des années et des années, voilà. Et voilà, Ramadan à tout le monde, avec bon, le Sahab Torkom et la paix, surtout, j'espère, Inch'Allah, un petit peu de paix dans le monde, un petit peu anxiogène, voilà.
Comme on dit, fidélité récompensée, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, un téléviseur ou un aspirateur?
Non, moi, c'est l'aspirateur.
Voilà, vous avez bien raison. Il sera bientôt chez vous.
Inch'Allah, merci. Barakallah, merci beaucoup.
Alors l'imam, vous voulez dire quelque chose?
Oui, je voulais simplement, parce que le standard est blindé au niveau des questions. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions à me poser au 06 29 25 35 00. Je vais le répéter encore une fois, j'ai un peu de temps. 06 29 25 35 00. Voilà.
Vous avez un peu de temps, mais vous avez une énorme responsabilité, Imam Abdel Ali, puisque c'est vous qui faites manger les gens à l'heure.
Inch'Allah, donc, à 19h08.
Donc vous avez du temps, mais vous devez respecter les horaires.
Couscous Dari vous souhaite un bon ramadan. Sksodari, Meirtadari. Vivez un ramadan solidaire avec Muslim Hands, 25 ans d'humanitaire à travers le monde.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة الله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تقبل الله صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا بمزيد من الأجر والثواب، آمين. والحمد لله رب العالمين.
كسكس داري كتمنى لكم شهية طيبة. سكسو داري ما يختداري. Bon appétit avec Muslim Hands. Muslim Hands, votre partenaire humanitaire.
كل طاقم برفام يتمنى لكم شهية طيبة. صحة فطوركم.
Retrouvez Ramadan & Co tous les jours de 17h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Ramadan & Co vous a été présenté par le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.